Le rendez-vous des pros de la location saisonnière, vendredi 31 mai 2024 au Doc de Paris sur Radio Immo.
Et bienvenue sur Radio Immo. Nous sommes toujours en direct depuis les docks de Paris à Aubervilliers sur la deuxième édition du rendez-vous des pros de la location saisonnière où nous accueillons ici dans notre studio de nombreux invités. Et je suis ravi d'accueillir Dimitri Boujard. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Mais vous êtes le bienvenu. Vous êtes avocat au barreau de Paris, avocat en droit immobilier et fiscalité immobilière. Vous faites du conseil également en investissement locatif. J'ai bien résumé ?
C'est bien résumé. J'ai la casquette d'avocat. Justement, conseil pour investisseurs immobiliers, mais j'ai également la casquette d'investisseur immobilier moi-même.
D'accord, ok, comme ça c'est parfaitement complet. Nickel. Maître, quel est l'intérêt pour vous d'être présent sur ce rendez-vous, sur ce type de salon ?
Alors déjà, l'ambiance, c'est pas un intérêt au premier chef purement financier. On pourrait se dire que je vais trouver des clients. Je vais sans doute en trouver quelques-uns, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'affirmer la présence. Moi, je suis présent également sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, YouTube,
etc. Vous êtes un avocat
connecté.
À la mode. Et connecté.
À la mode, je ne sais pas.
Connecté, en tout cas.
Mais connecté, ça, c'est indéniable. Ouais. Donc, il y a l'avocat investisseur que vous retrouvez sur YouTube. Et puis, du coup, ça permet aux gens qui me suivent déjà sur les réseaux, de venir bavarder avec moi. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympathique.
Ouais.
J'ai dématérialisé mon activité. Donc, je les vois en Zoom. C'est sympa. Mais moi, je préfère qu'ils viennent me dire « Maître, on a fait un rendez-vous il y a 2 semaines. » Et donc, voilà, je suis ravi. Puis, ils en profitent pour me poser des questions.
Ouais. Pourquoi vous êtes hyper connecté comme ça ?
Alors, je suis tombé dedans un petit peu par hasard en voyant ce que faisaient des vendeurs de formation dans l'immobilier. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et si les avocats se modernisaient un peu, ils faisaient pareil.
Ok. Et donc, du coup, vous avez suivi.
Et donc, j'ai suivi. J'ai eu un peu de mal sur ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je voulais pas trop me regarder, me réécouter. Et maintenant, alors, il n'y a plus aucun souci. J'ai un vidéaste qui me filme ça, qui me fait les montages. Il faut savoir déléguer.
Bah, vous êtes un influenceur, quoi.
Je me rapproche un petit peu de certains influenceurs, sauf qu'étant avocat, je m'attache particulièrement à délivrer des informations qui sont cohérentes, qui sont actuelles et surtout qui sont vérifiées. Donc ça, c'est super important. Et mon motto, mon slogan, c'est rendre le droit compréhensible par tous.
D'accord.
Donc j'ai une mission qui est de vulgariser l'information juridique et fiscale immobilière.
Et qui n'est pas simple, parce que ce n'est pas forcément facile d'accès.
Voilà, m'en parlez pas. Et quand je vois aussi toutes les bêtises qu'on a sur Internet de pseudo-gourous amateurs qui ont lu 3 blogs et qui racontent n'importe quoi, ça me fait frémir.
Bon, d'accord, ok. En quoi consistent justement vos services d'assistance, Maître ?
Alors, en ce qui concerne mes services purs d'avocat, puisque j'ai vraiment toujours cette première fonction que j'ai embrassée, moi j'ai embrassé la profession d'avocat par vocation, carrément. Donc j'ai pas fait d'autres études avant, j'ai fait mes études de droit Paris 1 Panthéon Sorbonne, et puis ensuite j'ai fait un magistère, et je suis devenu avocat direct, c'est ce qu'on appelle un avocat de souche, donc dès le départ. Et ma profession consiste à aider les investisseurs immobiliers à gagner du temps et de l'argent d'une façon juridique et fiscale.
D'accord.
Sur leurs investissements immobiliers, bien sûr.
Bien sûr. Comment est-ce que vous accompagnez justement les investisseurs immobiliers dans leur stratégie d'acquisition et d'exploitation de biens ?
Alors bah là, on est au salon de la location saisonnière, donc de la location courte durée. Et typiquement, des gens se disent « Tiens, je voudrais bien acheter tel appartement, je vais le mettre en location courte durée. » Puis ils tombent sur un truc internet, ils disent « Ah, mais ça n'a pas l'air si simple que ça. » Et puis de fil en aiguille, ils arrivent en faisant un petit Google Dimitri Boujard, ils arrivent sur mon site, ils voient que j'ai quand même 340 avis avec 4,9 de notes, donc ils se disent, il m'a l'air pas mal celui-là, ils me contactent, et là, ils me remplissent un document, je vérifie leurs objectifs en début de rendez-vous, et ensuite, je leur explique en fonction de leur situation, ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils ne devraient pas faire, ce qu'ils devraient changer, acheter, vendre, comment le faire, pourquoi le faire, et à quel résultat ils vont arriver.
Ok. C'est quoi les obligations légales spécifiques à respecter pour une location justement de courte durée ? Alors, il doit y en avoir beaucoup. Mais à quoi il faut vraiment, vraiment faire attention ?
Alors,
ce qu'on devrait mettre en premier, quoi ?
En premier. Déjà, regardez dans quelle ville vous allez investir pour faire la location courte durée. Il y a de plus en plus de villes qui vont mettre en place des règles pour essayer de restreindre, de réguler, d'interdire, sans le dire, la location courte durée. Donc ça, c'est très important. Vérifier auprès de la commune dans quelle mesure on peut le faire ou pas et quelles sont les règles éventuellement à respecter. D'accord ? Il y a une réforme qui a été voté il y a une semaine au Sénat, qui va revenir le 24 juin en commission mixte et qui devrait être adopté à la rentrée. Donc tout ça est en train de bouger avec de nouvelles obligations, des vérifications accrues pour vérifier que la RP, résidence principale sur laquelle on fait l'allocation courte durée, est bien la résidence principale. Une extension des régimes d'autorisation de changement d'usage. Donc il faut vraiment se renseigner sur la commune, première chose. Et le deuxième impératif, c'est si on fait ça en copropriété, il faut aussi impérativement bien étudier le règlement de copropriété pour voir s'il n'y a pas des clauses qui empêcheraient de faire la location courte durée.
Mais c'est un excès de réglementation surtout, quoi. Et dans ce domaine-là, sur la courte durée, c'est juste colossal aussi.
Alors, ça va vous faire rire, mais j'ai fait un post LinkedIn très récemment qui s'intitule « À bas la loi ». Venant d'un avocat, on peut se dire...
Oui, c'est un peu bizarre.
Ouais, c'est un petit peu étonnant quand même. Ouais. Mais oui, à bas la loi. En fait, l'excès de réglementation tue toute l'activité économique en France.
La loi tue la loi, quoi.
Trop de lois tue la loi. D'accord. Bien sûr, vous avez raison. Et c'est de plus en plus compliqué. Alors, là, je fais une petite parenthèse, puisqu'on va, me dire, ou des auditeurs vont se dire, ouais, non, mais pour les avocats, qu'il y ait trop de lois, c'est génial. Mais non, ils n'ont rien compris. Je le dis clairement. Pour moi, c'est l'enfer. Ouais. Je suis obligé de regarder tous les jours ce qui a changé. Je suis obligé de passer mon temps à essayer d'éviter à mes clients de tomber dans des pièges réglementaires ou fiscaux. Alors que si tout était plus simple, mais je créerais 10 fois plus de SCI, j'aiderais 10 fois plus d'investisseurs à faire de la location courte durée.
Oui, clairement. Mais c'est pas le cas.
Donc on s'adapte. Il faut être malin.
C'est quoi les risques encourus par les propriétaires justement qui ne respectent pas la réglementation en vigueur concernant la location courte durée? Et surtout, c'est peut-être le plus important et vous allez pouvoir nous répondre, quelles sanctions prévoit la loi, quoi?
Alors, ce sont des risques essentiellement d'ordre financier, hein, puisqu'il y a des peines d'amende qui sont prévues, qui vont être alourdies. Donc on peut avoir des peines d'amende jusqu'à 50 000 euros. Là, elles devraient pour certaines d'entre elles pouvoir aller jusqu'à 100 000 euros de peine d'amende. Et la Cour d'appel de Paris a récemment prononcé une peine d'amende contre une société civile immobilière qui faisait en fait une courte durée déguisée via des baux mobilité dans un appartement. Donc ils avaient transformé ça en chambre séparée et ils faisaient du bail mobilité. Sauf que la Cour d'appel a dit, mais non, le bail mobilité c'est pour un appartement entier, vous faites de la courte durée déguisée. Ils sont pris l'amende 50 000 euros, c'était une société, une personne morale, 50 000 euros d'amende hein, quand même. Donc il y a des peines et des sanctions. Il y a des peines aussi qui consistent à une obligation de remettre en état l'appartement pour le rendre à l'habitation, puisque dans certaines communes, c'est un changement d'usage. Et puis enfin, il y a des peines d'astreinte. C'est-à-dire, si vous ne vous conformez pas à votre condamnation, vous pouvez subir jusqu'à 1 000 euros par jour d'astreinte jusqu'à ce que vous ayez remis l'appartement. Donc moi, je le dis tout le temps, ne fraudez pas, respectez la loi.
Oui, et puis nul n'est censé ignorer la loi. Mais effectivement, quand on voit cet excès de réglementation... on se dit à un moment donné, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen du côté des autorités d'assouplir et d'adapter les règles actuelles? Et est-ce que là, pour le coup, vous avez des préconisations? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses et que ce soit moins lourd, quoi?
Ah, mais c'est extrêmement simple, mais c'est beaucoup trop simple, justement. C'est paradoxal. En fait, moi, je sais très bien ce qu'il faut faire. On nous parle de crise immobilière et on dit la location courte durée est évidemment le vecteur, ou parfois les plus modérés disent un des vecteurs, une des raisons de la crise du logement. D'accord ? En réalité, Airbnb représente une toute petite partie en France des logements et des locations. Et la plus grosse partie des locations courte durée, je dis Airbnb, mais je pourrais dire Booking, etc. La plupart des locations courte durée, c'est la location d'une partie de la résidence principale ou alors de l'ARP en totalité pendant quelques semaines par an. Donc, il y a quelques professionnels de la courte durée. Moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire un business de la location courte durée. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai pas de souci. Et en réalité, comment réduire le nombre de personnes qui font de la courte durée si c'est l'objectif affiché, en espérant que ça va rendre des logements aux personnes qui veulent des baux classiques pour habiter le logement? Il suffirait tout simplement non pas de contraindre la location courte durée, mais d'assouplir les règles pour la location classique, d'améliorer la fiscalité de la location nue. C'est assez simple de sabrer dans la surprotection des locataires. Chez nous, on peut squatter des logements pendant des années sans être mis dehors, ce qui est inconcevable dans la plupart des pays civilisés du monde. Chez nous, on peut être condamné pénalement si vous reprenez un logement dans lequel des gens sont rentrés illégalement. On inverse totalement la réalité. C'est scandaleux. S'ils veulent combattre tout ça, en fait, ils doivent simplifier et doivent rééquilibrer les rapports locatifs et améliorer la fiscalité des locations à l'année. Ce n'est pas le chemin que ça prend.
Non, c'est plutôt utopiste.
Pourtant, c'est simple, mais c'est une question de volonté politique. Et là, on entre dans d'autres débats qui ne m'intéressent plus, parce que moi, je suis là pour aider mes clients à faire les choses en toute légalité, parce que ça leur fait plaisir, pour gagner de l'argent, et parce que, ne l'oublions jamais, ils rendent un service essentiel. Ils logent des gens. Quand vous avez des touristes qui viennent en France, ils sont contents d'aller dans des locations courte durée. C'est pas plus compliqué que ça.
Bon, parfois, c'est un parcours du combattant, l'investissement, en tout cas dans ce domaine d'activité-là. Pour le coup, vous êtes là aussi pour les éclairer sur les subtilités. Il peut y avoir, quoi. C'est-à-dire qu'on contourne pas la loi, on la respecte toujours.
Mais on est malin.
Mais on est malin. C'est ça que
exact.
Ça signifie.
C'est ce que ça veut dire. Le mot malin, ça veut dire respecter la loi, mais ça veut dire faire les choses que d'autres personnes ne vont pas faire, ne vont pas oser faire, vont mal faire, les aider à bien faire, à rectifier le tir souvent. Moi, j'ai beaucoup de gens que j'aide de cette façon. D'accord ? Et c'est ça, être malin.
Alors, vous êtes présent sur les réseaux, vous le disiez tout à l'heure, et vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Instagram, et bientôt disponible, non pas sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, mais vous allez vous mettre sur du podcast payant, ça s'appelle le droit d'investir, ou ça va s'appeler le droit d'investir. C'est quoi l'idée derrière ?
Alors l'idée, c'est, je vous ai dit, rendre le droit compréhensible par tous. Ouais. Moi, en tant qu'avocat, quand je fais des rendez-vous, bah, j'ai un temps limité. Donc clairement...
Ça coûte de l'argent, quelque part. Donc c'est, non, mais c'est logique derrière.
Oui, bien sûr. Ah bah, de toute façon, faire un podcast coûte de l'argent. Moi, ça me prend du temps.
Ben voilà.
Produire un épisode, c'est des recherches approfondies. C'est le mettre sur une plateforme.
C'est bien de le dire, parce que
les moyens.
Ça explique pourquoi derrière, c'est quelque chose de payant. Quoi.
Ah bah oui, bien sûr.
Bien sûr.
C'est de la valeur ajoutée d'avocat.
Complètement.
Et donc,
qu'est-ce que vous y mettez à l'intérieur ?
Pour répondre à votre question, ça existe déjà. Donc vous pouvez taper www.ledroitdinvestir.com. Vous atterrirez sur la page du droit d'investir.
Okay.
Ce que j'y mets, c'est un fichier hebdomadaire de points d'actualité juridique et fiscale immobilière que j'analyse, puisque je fais une veille quotidienne sur tous ces sujets. Donc c'est vraiment, tiens, cette semaine, ça a été voté au Sénat, voilà ce qui arrive pour vous. Mais attention, moi je ne fais pas du sensationnalisme, je ne dis pas vous allez tous mourir. Je leur dis, mais attention, ça va revenir le 24 juin, donc ce n'est pas encore totalement adopté, et feuilleton suivant à la rentrée. Donc j'aide les gens à se tenir au courant sans qu'ils passent des heures à trouver des informations périmées. J'ai encore bavardé avec quelqu'un tout à l'heure qui est en SCI à l'IS, il vient de la créer, il me dit, ah je me suis trompé, c'est trop tard, c'est irréversible. Mais non, ça fait 5 ans qu'il y a la réversibilité de l'option à l'IS. Et ça, dans le podcast, bah, j'ai fait un épisode spécial sur ce sujet. Donc les gens ont toutes les archives, des dizaines d'épisodes, et puis ils ont des contenus additionnels. Ils ont par exemple la possibilité chaque mois de se connecter à ma réunion Zoom pour mes abonnés.
D'accord.
Et pendant 2 heures de me poser leurs questions directes.
Et ça, c'est sous forme d'abonnement, c'est ça ?
C'est un abonnement mensuel, tout à fait.
D'accord.
Exactement, c'est super simple. Et si nos auditeurs font tout simplement de la location meublée au réel, ont des sociétés sous location, conciergerie, SCI, Alias, etc., c'est une charge déductible.
D'accord. Bon, maître, vous êtes donc hyper connecté, vous êtes présent partout. Qu'est-ce qui vous manque ?
Alors, qu'est-ce qui me manque ? Ce qui me manque souvent, c'est du temps pour arriver à tout faire, tout bien faire, puisque je rédige aussi des contrats. J'ai rédigé un contrat de sous-location pro, un contrat de conciergerie pour les conciergeries sans carte G. C'est parfaitement légal. Donc, ce qui me manque vraiment, c'est plutôt du temps pour mener les activités d'avocat, les activités sur le droit d'investir, mes activités immobilières. Je suis investisseur immobilier, donc j'ai mis un petit peu en pause l'investissement immobilier. Mais pourquoi est-ce que les gens me contactent après tout ? C'est parce que moi, c'est l'avocat investisseur. Je parle aux gens d'une façon telle qu'ils me comprennent, puisque je suis investisseur comme eux. Donc c'est vraiment ça qui manque, c'est le temps.
Le temps. Bon,
voilà.
En tout cas, vous
ça,
l'avez.
Ça s'achète pas.
Oh, non, ça c'est clair. En tout cas, vous l'avez pris pour venir nous voir.
J'étais ravi, oui.
Donc ça, c'était bien. Un grand merci. Vous nous rappelez l'adresse internet où on peut avoir toutes les infos ?
www.ledroitdinvestir.com. Vous noterez le petit jeu de mots subtil. Je suis avocat, donc vous avez le droit. Et en plus, immobilier, vous avez le droit d'investir, bien sûr.
Elle est où la robe ?
La robe est accrochée chez moi sur une patère et je ne la mets plus puisque je ne vais plus plaider. Je laisse le plaisir de plaider à mes confrères.
D'accord.
Mais j'ai plaidé pendant plus de 23 ans.
Ok.
Et vous savez quoi ? Le secret de tout ça, en fait, c'est que j'en pouvais plus que mes clients viennent me décharger leurs problèmes et que j'aille batailler comme d'autres confrères. Je suis passé du côté non pas obscur, mais du côté bienveillant de la force.
Ouais.
Puisque les clients que je vois, ils viennent construire, ils viennent me dire. J'ai envie de faire ça, comment le faire ? Et je les aide. Et ensuite, vous savez quoi ? Ils me disent, maîtres, je les revois au salon et ils me disent, vous savez, vous nous avez dit ça il y a un an, on a fait ça, c'est génial, merci. Et
ça, c'est le meilleur des compliments.
Exactement, ça me fait ma journée.
C'est ce qui vous anime maintenant.
Exactement.
Ok. Un grand merci d'être venu sur ce plateau. Une bonne continuation à vous. Merci également à vous de votre fidélité. On était ravis de vous faire suivre en direct cet événement du deuxième rendez-vous des pros de la location saisonnière. Et on se retrouve très prochainement sur Radio Immo et sur d'autres événements. À très vite.
Le rendez-vous des pros de la location saisonnière, vendredi 31 mai 2024 au Dock de Paris sur Radio Immo.